Chères auditrices, chers auditeurs de cette émission mensuelle de la Libre Pensée, à laquelle les animateurs de Article 25 prêtent cette plage, bonjour. Sont au micro Claudette Coudeville, Michel Garin, Henri Huil et moi, Michel Cadouche. Cette émission a lieu dans un contexte extrêmement chaotique. Dans notre pays, un gouvernement minoritaire se sent impuissant à imposer à la population une véritable saignée tout en préservant les privilèges des plus fortunés. Mais ce qui marque ce moment, c'est la violence avec laquelle l'impérialisme américain pulvérise l'ordre mondial. Il instaure le système d'entente entre larrons en foire. Et d'ailleurs, il me paraît possible que l'Union européenne et l'euro n'y résistent pas. Et toujours les guerres. Les feux des projecteurs sont braqués à juste titre sur la bande de Gaza où le génocide continue, avec l'ajout de l'horreur d'une famine organisée et de déportation de population pour le moment du nord au sud et le projet d'une déportation hors de ce territoire. Tandis qu'en Cisjordanie, ce sont meurtres, vols de terre, destruction de camps de réfugiés. Les libres penseurs, eux, n'acceptent pas, et certes ils ne sont pas les seuls, que l'humanité soit plongée dans la barbarie. Ils s'attachent à ce que chacune et chacun puisse se constituer sa propre vision, basée sur les faits, afin de pouvoir agir en combattant les endoctrinements de toute nature, donc pour l'absolue liberté de conscience. Nous souhaitons informer celles et ceux qui nous écoutent de quelques événements importants. Pour le 120e anniversaire de la loi séparant en France les églises et l'État, il est organisé un meeting le 6 décembre à Paris. Claudette, peux-tu nous en dire plus ?
Oui, merci Michel. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, l'année 2025 va marquer le 120e anniversaire de la loi de 1905 qui a établi la liberté de conscience dans notre pays. Et avant donc de parler de ce rassemblement, de ce dont tu viens de faire état le 6 décembre, la Libre Pensée souhaiterait faire plusieurs constats démontrant la situation de la laïcité en France, les dévoiements dont elles font l'objet, qui vont jusqu'à la travestir en son contraire. De loi de liberté, elle devient une loi d'interdiction et d'exclusion. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par ses articles 10 et 11, avait prévu la liberté d'opinion et d'expression, y compris et surtout en matière religieuse. Et elle avait ouvert ainsi la voie à ce que fut en 1905 la loi de séparation des cultes et de l'État, qui garantit la liberté de conscience et par voie de conséquence le libre exercice des cultes. Cette loi, à l'origine loi de liberté, est aujourd'hui détournée et la laïcité est utilisée à des fins liberticides. Ainsi, la loi séparatisme et son contrat d'engagement républicain a porté atteinte au principe de liberté d'association et modifier gravement la loi de séparation. Dorénavant, en matière de culte, l'État peut se prononcer sur le droit d'exister pour une association cultuelle, selon qu'elle lui convient ou pas. De même pour les associations, loi de 1901. La laïcité est devenue prétexte à une xénophobie systématique. On observe une surenchère politique où certains, et pas toujours à droite ou à l'extrême droite, de la même façon que Bruno Retailleau et Gabriel Attal rivalisent pour adopter des positions discriminantes envers les musulmans, sommés de devenir invisibles d'un côté et de l'autre accusés de complot lorsqu'on ne les voit plus. Cette situation n'est pas sans rappeler le débat qui a existé en 1789 où les défenseurs du catholicisme voulaient faire du culte catholique un culte privilégié et militer pour une loi de tolérance qui lui assurait la reconnaissance comme culte officiel. Bien entendu, à l'opposé d'une liberté pour tous les cultes et toutes les opinions sans en privilégier aucun. La différence est de taille entre les deux conceptions. La tolérance suppose une permission accordée par une autorité, tandis que la liberté est un droit inaliénable. La libre pensée que la laïcité, déclare que la laïcité, ce n'est pas la tolérance, mais la laïcité, c'est la liberté absolue de conscience pour tous et par conséquent le libre exercice des cultes si on est croyant. Des débats politiques actuels semblent vouloir revenir sur cet acquis et défendre de fait la tolérance catholique. Ils sont illustrés au quotidien. Ainsi, Bruno Retailleau s'agenouille devant le pape, mais multiplie les propos stigmatisant les croyants musulmans. Gabriel Attal, lui, a proposé en mai 2025 d'interdire le port de voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans, arguant que cela porte gravement atteinte à l'égalité homme-femme et à la protection de l'enfance. En matière de protection de l'enfance, l'avez-vous vu entendu s'exprimer à propos des viols dans les établissements scolaires catholiques ? La République ne peut faire le tri parmi les êtres humains selon leur religion supposée. Parallèlement à ces attaques contre les musulmans, on constate des avantages, des privilèges qui sont assurés au culte catholique qui bénéficie d'une manne financière à milliards par le biais de subventions aux écoles privées, du silence ou d'absence d'intervention de l'État et du gouvernement sur ces crimes, ces violences physiques et psychologiques et les viols sur les enfants dans ces institutions. Ainsi, l'année 2025 a été sur ce plan avec l'affaire Bétaram, qui suivait l'affaire Stanislas, très révélatrice des complicités et des couvertures au plus haut niveau de l'État, démontrant les relations malsaines entre le pouvoir politique et l'enseignement catholique. Ces scandales, qui en ont révélé d'autres, ont montré les écoles catholiques pour ce qu'elles sont, des lieux d'endoctrinement au cléricalisme, au chauvinisme, au sexisme, à l'homophobie, mais aussi des lieux de violence morale, physique et sexuelle. Ces révélations ont montré que la défaillance est systémique, la complicité est inscrite au cœur de l'État. En effet, il n'y a pas de défaillance dans le contrôle des établissements privés catholiques, il y a une complaisance structurelle. L'école concordataire, cooptée et contractualisée, organiquement liée aux institutions bonapartistes de la Ve République, est un instrument de domestication, de soumission de la jeunesse, et c'est pour cela que le gouvernement le soutient contre l'école publique laïque, qui, elle, est un instrument d'émancipation. Face à ces scandales, le bloc laïque a retrouvé une unité qu'il n'avait plus connue depuis 40 ans. La question n'est plus aujourd'hui « faut-il abroger la loi de Bray ?» mais bien « comment y parvenir ?» Et c'est pourquoi la Fédération nationale de la libre-pensée a proposé aux défenseurs de l'école publique un plan de sortie du financement public de l'école privée. En 2025, le combat doit être relancé pour l'abrogation de la loi de Bray et de toutes les autres dispositions ayant porté atteinte au principe de laïcité en France. À l'approche du 120e anniversaire de la loi de 1905, dans le climat liberticide et xénophobe que nous connaissons, la laïcité risque d'être travestie en son contraire, instrumentalisée à des fins politiques et idéologiques. Il est crucial de réaffirmer ce qu'est la laïcité face aux détournements et aux menaces. Partout dans le monde et en France, la réaction relève la tête. et relève la tête en accumulant tous les éléments de guerre civile prélude à la guerre impérialiste. C'est le rôle attribué à la campagne de haine, de racisme et de xénophobie contre nos concitoyens d'origine arabo-musulmane ou étrangère. La volonté de division de la classe ouvrière et de la conscience démocratique qui est aujourd'hui organisée par la loi séparatisme du 24 août 2021 vise à faire disparaître toute trace des cultes musulmans et de leurs fidèles et des présupposés musulmans étiquetés comme tels par la réaction, par une sécularisation forcée et contrainte de l'islam et de ses adeptes. Cela se fait en totale violation et en contradiction ouverte avec la loi de 1905. La laïcité, c'est la liberté. Ce n'est pas l'oppression ni la servitude. Ce ne sont pas les consciences, même religieuses, mises sous le joug de l'idéologie d'État totalitaire et xénophobe. La FNLP a pris donc l'initiative d'organiser un grand meeting national et international, unitaire, démocratique, à Japy, le 6 décembre 2025, ouvert à toutes les organisations ayant défendu la loi de 1905 contre sa réécriture sauvage par la loi séparatisme de 2021. La loi séparatisme est incompatible avec la loi de 1905. Chacun doit choisir son camp, car une barricade n'a que deux côtés. Liberté de conscience pour tous, liberté de culte pour tous, neutralité de l'État partout. Pour terminer, je vais vous donner quelques-uns des participants qui sont prévus d'ores et déjà et qui seront présents à Japy. Il y aura un dirigeant de la plus importante association laïque des USA qui viendra expliquer comment s'est faite la séparation des cultes et de l'État en 1789. Un député de l'Assemblée constituante du Portugal viendra dire pourquoi et comment a été intégrée la laïcité dans la Constitution du Portugal. Des associations d'immigrés, d'OQTF et de sans-papiers et de jeunes seront présentes. La marche des solidarités a indiqué qu'elle viendrait, y appellerait et prendrait la parole pour expliquer comment la laïcité est instrumentalisée contre les présumés musulmans et comment elle leur rend la vie difficile. D'autres associations, bien sûr, viendront pour intervenir sur l'égalité. Alors, tous à Japy le 6 décembre, c'est notre appel.
Merci Claudette. Je pense que tu souhaites faire passer une pause musicale.
Oui, bon. Alors, j'avais prévu un petit papier pour présenter la chanson. En fait, j'ai choisi pour comme chanson une chanson de Renaud qui s'appelle La Ballade nord-irlandaise, qui présente l'avantage de parler des guerres civiles religieuses, et notamment de la guerre en Irlande. Je n'ai pas mon papier.
J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades, des goupillers. Jusqu'à Terry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux femmes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher, pas une guerre ne pourra durer, lorsque la pierre et l'amitié et la musique nous feront chanter. Ce sont les hommes ça ou la chanson n'enverra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté.
Voilà, donc bon, rappelons que Japy est le nom de ce gymnase qui a beaucoup compté dans l'histoire du mouvement ouvrier. C'est un gymnase dans Paris où, d'ailleurs, la Libre Pensée a déjà fait, il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans, un meeting avec la Ligue des droits de l'homme et la Ligue de l'enseignement, d'ailleurs. Voilà, donc, autre événement à Paris qui est prévu, c'est un meeting appelé Contre la guerre, le 5 octobre, par des personnalités mondialement connues. Michel, pour quelle raison la Libre Pensée a-t-elle décidé de soutenir ce meeting ? Je crois que Michel va intervenir. On ne t'entend pas. Apparemment, il y a un problème de micro. Là, on t'entend.
Voilà. Bon, je vais prendre le collègue, excusez-moi. Hein, je vais prendre le micro de, pardon, excusez-moi, de mon voisin. Alors, on vient de le dire, hein, c'est toutes les déclarations que l'on peut faire ou les résolutions. Ce sont des résolutions qui ont été adoptées lors de ce fameux congrès de Garrigues qui a eu lieu du 18 au 22 août. Alors, bien entendu, la libre pensée est concernée par les problèmes de la guerre, ou de la paix plus exactement, puisque ça fait partie de ses statuts. Alors, à l'occasion de ce fameux congrès national dans le Tarn, qui était entre autres la patrie de Jean Jaurès, la Fédération nationale de la libre pensée entend exprimer son analyse de la situation nationale internationale, dans laquelle les plus graves dangers font partout, jour par jour. Alors on connaît le combat pacifiste et internationaliste de Jean Jaurès contre la guerre qu'il paya du prix de sa vie, assassiné par la barbarie belliciste. Le 19 octobre 2021, dans une déclaration solennelle intitulée « La guerre qui vient », la libre pensée indiquait « Une période se ferme, une autre est en train de s'ouvrir, elle n'est pas moins dangereuse et recèle en elle de lourdes menaces de guerre, mais aussi, corollaire oblige, de révolution ». De ce fait, le Moyen-Orient va connaître une grande période de déstabilisation qui aura aussi des répercussions importantes pour la survie de l'État d'Israël. C'est ce qui explique les grandes manœuvres d'aujourd'hui où les ennemis d'hier veulent s'entendre comme larrons en foire sur le dos, une fois de plus, du peuple palestinien et de ses droits. Alors ça, bien sûr, c'est une citation, comme vous le voyez, on avait déjà prévu. Alors la guerre est là, et partout ouverte et en germe. En Palestine, on assiste à un génocide en direct sous nos yeux, commis par l'État d'Israël, dirigé par des fascistes sionistes assassins. Les puissances impérialistes soutiennent Israël en croyant faire oublier qu'elles ont le sang des Juifs d'Europe sur les mains. Et dans ce bal des hypocrites, ce sont les Palestiniens innocents qui payent le prix fort. Mais les génocidaires au pouvoir à Tel Aviv devront rendre des comptes, et leurs complices aussi, ceux qui ont livré les armes du crime et ceux qui ont œuvré à une campagne de dissimulation de ces crimes de guerre et contre l'humanité. La conscience humaine l'exige. En Ukraine, attaqués par la Russie, les oligarques des deux pays font la guerre entre eux au compte de l'impérialisme. US, de l'OTAN et de l'Union européenne et de la Russie. On rappelle que les UNSA organisent une nouvelle alliance militaro-industrielle dans le cadre d'un futur conflit planétaire avec la Chine. La politique du containment ne pourra être reproduite à l'identique, d'autant que la Russie jouera son propre rôle comme interface entre les deux grands, pour en tirer de substantiels bénéfices et se refaire une santé. Nous ne serons donc pas plus qu'aujourd'hui dans un monde bipolaire, mais dans un monde, dans une gigantesque brèche. Hein, dans un monde plutôt multipolaire, je dirais, ou dans une gigantesque brèche. Il pourra se passer des événements incontrôlables, notamment pour la possession des énergies et, en premier lieu, de l'eau. Un battement d'ailes de papillon pourra déclencher une éruption volcanique en n'importe quel point du globe. Palestine-Ukraine, c'est le même scénario, avec au bout toujours la guerre dans le monde pour la seule défense des intérêts des USA. La libre pensée appelle à refuser l'engrenage fatal. Elle apporte tout son soutien aux déserteurs de tous les pays qui disent non à la guerre. C'est pourquoi, dès que les circonstances politiques le permettront, elle ouvrira à nouveau la question de la réhabilitation des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale, comme un geste puissant pour honorer ceux qui ont dit non à la guerre. Ensemble, agir contre la guerre. L'action pacifiste internationale, qui est un impératif catégorique, c'est pourquoi le Congrès national de la libre pensée contre la guerre et pour la paix décide que la FNLP appelle à participer au meeting international du 5 octobre 2025. Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre. Alors maintenant, cet appel, vous le trouverez bien entendu sur Internet. Hein, on en fait, vous cherchez, vous le verrez, vous le trouverez facilement, aussi sur le site de la libre pensée. Alors l'appel, c'est pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre. Les dirigeants européens préparent la guerre. Un vaste programme de réarmement est en cours. Et c'est à la classe ouvrière qu'ils vont demander de payer le prix de leurs armes et de leur guerre. Par les impôts, par les coupes dans nos prestations sociales, par la baisse de notre niveau de vie, ainsi que par notre sang et notre sueur. L'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale se désintègre politiquement, financièrement et militairement. Nous faisons face à de multiples crises qui s'aggravent. Celle du capitalisme lui-même, qui met en danger l'avenir même de l'humanité, l'effondrement écologique imminent et le risque croissant d'une guerre mondiale, voire d'une guerre nucléaire. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais ils sont amplifiés par le second mandat de Trump et par la montée de l'extrême droite en Europe. C'est pourquoi des militants, des syndicalistes et des démocrates de toute l'Europe lancent cet appel à s'unir contre la guerre et contre les dépenses militaires et à rejeter l'exigence d'un gouvernement européen de soutenir leur politique brutale et destructrice au nom d'une prétendue union nationale. Il s'agit là d'un patriotisme factice. Ces guerres ne sont pas les nôtres. Nous ne les paierons pas, nous ne mourrons pas pour elles. Comme le disait l'écrivain français Anatole France, au moment de la Première Guerre mondiale, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Des millions de personnes sont mortes à cette époque, et c'est ce à ce qui se reproduira si nous ne mettons pas fin à ce bellicisme et au réarmement. La classe dirigeante européenne mène déjà une guerre par procuration en Ukraine et soutient le génocide israélien contre le peuple palestinien. Voici les faits. 1 million de morts et de blessés des deux côtés, en Ukraine et en Russie. Des dizaines de milliers de morts et de blessés en Palestine dans la tentative de génocide et de nettoyage ethnique de toute la population. Les principaux bénéficiaires sont les fabricants d'armes et ceux qui profiteront de l'exploitation des ressources de la Palestine et de l'Ukraine. Mais nous ne soutiendrons pas cette exploitation. Nous disons non à la guerre et aux attaques contre les acquis sociaux, non au budget de guerre et aux fauteurs de guerre, non aux politiques de guerre, d'où qu'elles viennent. Nous appelons à l'unité des peuples d'Europe, à la paix et non à la guerre, à la justice et à l'égalité et non à l'exploitation. Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre. Alors, dans les signataires, je ne pourrais pas vous dire lesquels vous signalez plus particulièrement certains signataires. Il y en a tellement et tous ont plus ou moins leur importance. Ce que je peux vous dire, c'est que quand même, il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui signataires, enfin des membres de ces pays qui sont signataires. Il y a l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, le Portugal, la Roumanie, la Pologne, la Serbie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et plein de signataires qui sont, j'irais, à leur propre nom, quoi. Voilà, donc nous appelons bien entendu à signer cet appel et à participer, comme on a dit à la Libre Pensée, à ce fameux meeting qui aura lieu le 5 octobre. Voilà.
Merci Michel, mais toi aussi, je pense que tu as prévu de nous passer une chanson. Je crois que c'est « Ils ont tué Jaurès » de Jacques Brel.
Pourquoi ? Pourquoi ?
Alors, le problème, c'est que le micro ne marche toujours pas, donc nous avons un problème. Non.
Voilà.
Apparemment, nous avons un gros problème technique aujourd'hui.
Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes, ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Oui. Toujours aussi émouvant. Henri, le congrès mondial de la libre pensée est annoncé pour les 10 et 11 octobre en France. Le combat pour la liberté de conscience se mène donc à l'échelle internationale
En effet, Michel, en effet. Je vais commencer donc pour la présentation de cet événement important qui est un congrès mondial de l'Association internationale des libres penseurs, par donner un peu le programme très rapidement, bien sûr. Donc ça se tiendra les 10 et 11 octobre de cette année 2025 à Grenoble le 10 et 11 et le soir du 11 à Lyon. Dans le programme prévoit en particulier, à part l'accueil des participants et la réception par le maire de Grenoble qui viendra en personne, un débat sur la question de l'organisation d'une action internationale de solidarité entre libre-penseurs et d'ailleurs au-delà des adhérents de la libre-pensée. Quand on parle des libre-penseurs, on pense à tous ceux qui veulent penser et faire triompher la raison humaine et la liberté de conscience. Ensuite, le soir à 18h, il y aura une réception, cette fois dans le hall d'honneur de la mairie de Grenoble, qui sera à 20h suivie d'un banquet fraternel, comme il est d'usage chez nous. Le samedi, la matinée sera organisée autour de la discussion sur les victimes des crimes des églises et une introduction sera faite par notre ami britannique, dirigeant de la National Secular Society, la société séculière, alors pour les Anglais, la société laïque nationale, Keith Porteous-Wood, qui est porte-parole anglophone de l'Association internationale des libres penseurs et qui est également expert à l'ONU, à la Commission des droits de l'homme. Donc ça va occuper le débat sur toutes ces questions la matinée. L'après-midi du samedi sera centré sur les enquêtes à mener sur les richesses des églises. C'est un sujet tout à fait intéressant et donc ça sera l'essentiel du débat. Et le samedi soir 11 à Lyon, à 20h, il y aura une conférence publique qui s'intitule, c'est tout le titre dit tout, « L'affaire Barbarin ou l'histoire d'une impunité » avec les associations des victimes de Lyon notamment, les victimes des filles du Bon Pasteur qui se sont illustrées au restaurant de Notre-Dame de la Garde à Marseille, cette congrégation des filles du Bon Pasteur, en pratiquant pratiquement des conditions d'esclavage qui ont été condamnées. Donc, cette conférence publique, il sera lu un message d'Albert Vignon, qui est le prêtre qui a lancé la pétition pour la destitution du cardinal Barbarin qui couvrait les agissements des prêtres pédophiles de son diocèse et qui est à l'origine de la grande publicité qui a été donnée à cette affaire. Voilà, ça c'est l'organisation des deux jours du congrès international auquel il est encore temps de s'inscrire. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site de la fédération, y compris nationale, mais y compris de la fédération départementale de la libre pensée. Alors, je voudrais motiver un peu le cadre général et expliquer un peu le cadre général de ce congrès et d'ailleurs de l'action internationale de la libre pensée, du même coup, qui est présente et qui existe sur les 5 continents. Alors, le respect et la défense de la liberté de conscience ne peuvent exister sans dispositif juridique et législatif de séparation entre ce qui est la sphère religieuse, qui est de l'ordre de l'individu, et le pouvoir temporel, c'est-à-dire l'État. Ce que Victor Hugo, grand écrivain qui était également libre-penseur, a exprimé par cette formule lapidaire, l'État chez lui, l'Église chez elle. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on nous raconte bien souvent dans les médias français, que des situations de séparation effective des religions et de l'État existent dans de nombreux pays. Et d'ailleurs dans d'autres, tout aussi nombreux, des éléments de laïcité existent plus ou moins dans les constitutions. La séparation des églises et de l'État n'est donc pas la caractéristique particulière d'un pays en particulier, suivez mon regard, la France, puisqu'on nous dit la laïcité c'est un truc de français, les autres ne comprennent pas. Bon, tout ça c'est évidemment du bidon. Ce n'est pas l'apanage d'un pays en particulier. Si c'était le cas, il s'agirait d'une exception donc. Au contraire, sous différentes formes, la liberté de conscience, qui est synonyme de la laïcité, est avant tout un concept universel, à ce titre répandu partout dans tous les pays, en tant qu'aspiration à plus de démocratie et à l'approfondissement des libertés individuelles et collectives. Ainsi, sans faire là aujourd'hui un cours d'histoire, on n'aura pas le temps, mais la séparation des églises et de l'État a été conquise, par exemple en 1789 aux États-Unis, c'est un pays protestant. Alors pour les États-Unis, ça surprend toujours quand on dit il y a une constitution laïque. Oui, le premier amendement qui a été adopté en 1789 précise que l'État n'a pas le droit aux États-Unis d'intervenir dans les questions religieuses. Ce qui n'empêche pas que, comme vous le savez, comme nous le savons tous, la société américaine, la vie quotidienne américaine est noyée sous un flot de religiosité, au point tel que la confiance en Dieu, le fait de s'en remettre à la divine providence, est écrite sur les billets de banque. Mais depuis 1954 seulement. À l'origine, c'était ce qui était écrit, c'était une devise latine que je vais dire en français, qui était il faut rassembler ce qui est épars. C'est les États-Unis d'Amérique. Voilà, rassembler ce qui était pas. Et donc c'est depuis 1954 seulement que ça a été remis en cause, y compris sur les billets de banque. Donc, quelle que soit leur histoire, la religion dominante, la culture majoritaire, une évidence s'impose dans tous les pays. La séparation des églises, des religions, des cultes et de l'État est une solution, et la solution démocratique applicable partout et en toutes circonstances. C'est en quelque sorte, on peut dire, la liberté conquise et la démocratie établie dans la constitution d'un pays. Alors évidemment, j'ai pris l'exemple phare un peu des États-Unis, mais c'est le même cas au Mexique, qui lui est un pays non pas protestant mais catholique, depuis 1874. Et en France, il nous a fallu pratiquement deux révolutions et un grand bouleversement pour en arriver là. Mais la première séparation entre les cultes et l'État, c'est en 1795. Puis en 1871, la Commune de Paris. Puis en 1905, le grand bouleversement du vote de la loi de 1905, dont Claudette a parlé tout à l'heure, sur laquelle je ne reviens pas maintenant. Mais même en Russie, c'est en 1918, c'est-à-dire en pleine révolution bolchevique, que Lénine propose et fait publier un décret établissant la liberté de conscience, la liberté religieuse. Et c'est, tout le monde sait que la Russie, c'est un pays de tradition orthodoxe. Elle me dit, oui, mais tout ça, c'est quand même des chrétiens. Oui, mais en 1937, c'est au tour de la Turquie musulmane de l'établir partiellement, la laïcité. Alors partiellement, mais quand même, c'est une conquête extrêmement importante qui aujourd'hui, comme partout dans le monde, comme toutes les conquêtes importantes, tend à être remise en question par les gouvernements. Et aujourd'hui, puisque tous les exemples que je prends datent un peu, mais aujourd'hui, dans le Népal bouddhiste, la séparation, telle qu'on pourrait, d'une manière très semblable à ce qu'elle est dans la loi de 1905 en France, est établie en 2008. C'est un pays bouddhiste. En Bolivie, qui est un pays tout aussi de religion traditionnelle amérindienne que de religion catholique, mélangée d'ailleurs bien souvent, parfois très rivale, très en concurrence, elle a été établie en 2009. Dans l'Angola, qui est un pays en Afrique, et un pays où l'animisme et une foultitude cohabitent, l'animisme cohabite avec une foultitude de religions ou de sectes d'inspiration plus ou moins chrétienne, protestante, etc. Elle a été décidée en 2010. Donc on voit que les discours selon lesquels la laïcité est l'apanage d'un pays particulier qui serait la France reposent strictement sur rien, comme souvent ce qu'on nous raconte à la télé par ailleurs. Donc, le respect, des situations existent, comme je l'ai dit, dans de nombreux pays, et que les éléments de laïcité sont fréquemment inscrits dans la Constitution, avec des degrés plus ou moins d'affirmation et de caractère déterminant. Il faut voir qu'en opposition au principe universel de liberté d'expression et d'association, qui sont les corollaires de la liberté de conscience, les concordats avec les églises, et puis notamment chrétiennes, notamment catholiques, et puis ce qu'on appelle les religions officielles ou les religions établies selon les pays, s'engagent inévitablement dans la répression des idées et des personnes qui ne s'identifient pas, qui ne se coulent pas dans le moule des valeurs officielles, ainsi proclamées et imposées par les États. En fait, et les concordats catholiques, les églises et les religions établies, comme j'ai dit, contribuent par leur doctrine à la soumission à l'État et au pouvoir, notamment économique, à renforcer la volonté de mettre en œuvre les idéologies d'États qui sont par nature totalitaires. on a très bien vu ça en France, mais comme dans tous les pays, sur les questions telles que l'interruption volontaire de grossesse, le droit pour tous au mariage, ou l'aide médicale à la procréation. On prend que ces trois exemples-là. Donc le financement public direct ou indirect des religions, des églises et des cultes par la distribution de l'argent public au profit donc de ce qui n'est qu'une option religieuse, philosophique de quelques-uns, est discriminatoire et contradictoire par nature avec la notion de liberté de conscience, qui doit s'appliquer de la même manière fondamentalement aux non-croyants comme aux croyants comme aux non-croyants. De même, la perte d'argent public due aux exonérations fiscales parfois exorbitantes dont bénéficient certaines religions, il s'agit d'un avantage scandaleux et d'un détournement de l'argent public qui devrait être utilisé pour l'intérêt général, notamment la scolarisation par exemple, et non pour des intérêts privés, bien souvent qui confinent à des intérêts sectaires. Ainsi, les églises catholiques, puisque nous sommes en France et que c'est l'église dominante, utilisent régulièrement leur statut particulier, accordé ou protégé par des États complaisants, pour échapper à la justice humaine, notamment dans le cas de crimes, en particulier sexuels. Tout le monde sera d'accord avec moi, je pense, pour dire qu'il s'agit là d'une discrimination tout à fait insupportable. Et donc, au moment où la guerre est quasiment sur tous les continents, où elle semble avancer inexorablement de la manière la plus barbare, toute la société américaine fait face aujourd'hui à une nouvelle offensive cléricale de grande ampleur, qui part du sommet de l'État, de Donald Trump et de ses sbires lui-même et eux-mêmes, remettant en cause le mur de séparation dont j'ai parlé tout à l'heure, du premier amendement, qui a été à l'époque conquis de haute lutte suite à l'indépendance américaine contre le colonialisme britannique. L'Association internationale de la libre pensée apporte son soutien total et sa pleine solidarité à tous les peuples qui défendent leur droit à disposer d'eux-mêmes et qui veulent lutter contre la barbarie de la guerre et de son cortège de massacres, de vols, de pillages, de viols et de destructions. L'Association internationale de la libre pensée dénonce les interventions des religions pour justifier ces massacres et d'ailleurs parfois souvent pour les organiser eux-mêmes. Les humanistes, les laïcs, les athées et les libres penseurs affirment leur accord avec le philosophe grec Protagoras qui disait « L'homme est la mesure de toute chose. Nous n'avons nul besoin de nous référer au surnaturel pour déterminer la nature de la réalité, savoir qui nous sommes et comment nous devons agir. Notre intelligence et notre conscience sont des guides suffisants. La science repose sur la raison et sur la preuve. La religion repose sur la foi. Ces deux visions du monde sont totalement séparées, je dirais même antagoniques. La foi, commande souvent d'abandonner ou contredire la raison, avec un R majuscule, et la preuve des choses. En tant que libre penseur, nous soutenons un effort général pour encourager la pensée critique et la méthode scientifique comme seuls moyens par lesquels nous pouvons parvenir à la connaissance. La subordination de la volonté des hommes à la volonté divine, entre guillemets, parce que nombreux sont ceux qui n'ont entendu parler de la volonté divine que par oui-dire, c'est-à-dire par l'intermédiaire des prêtres. Oui, peu de gens entendent directement la volonté divine. Et donc le fait de se soumettre à cela, de se subordonner à cela, c'est un acte d'oppression. L'usage qui est d'obéir au clergé, de leur laisser prendre des décisions à notre place, c'est l'oppression et l'irresponsabilité. C'est l'oppression surtout parce qu'on n'est pas dans son fort intérieur forcément convaincu de la validité d'une religion ou d'une autre, ou des religions quelles qu'elles soient. Et donc le fait qu'il y ait une religion d'État, c'est une forme d'imposition, d'un dogme, d'une croyance qu'en son fort intérieur, on ne partage pas. C'est vraiment le viol de la liberté de conscience. Après, chacun est libre de sa pratique et de ses convictions religieuses, c'est autre chose. L'oppression de l'État et la liberté individuelle sont deux choses bien différentes. Et les laïcs, les libres penseurs, sont opposés à toute forme d'oppression. Nous ne voulons pas plus d'une société de lois anti-religieuse que nous voulons de loi et d'une société gouvernée par une religion, ou par des religions. Donc les participants à ce 9e congrès mondial œuvreront, aux côtés bien sûr de bien d'autres, à l'émancipation complète de l'humanité dans tous les domaines. Aucun système politique, éthique, économique, social ou religieux ne peut justifier l'asservissement de l'homme. Nous soutenons donc la stricte séparation de l'État et des Églises et nous rejetons tous les traitements de faveur et les facilités accordées aux religions organisées comme aux religieux en provenance de gouvernement. La loi doit être la même pour tous. Rousseau l'a dit, l'homme est né libre et cependant il est partout enchaîné. Nous devons être libres de penser et de vivre dans une société organisée selon notre volonté. La perception de qui nous sommes et de ce que nous sommes, de ce que nous choisissons de croire ou de ne pas croire, de la vie que nous entendons mener, de la façon dont nous choisissons de nous exprimer, avec qui nous choisissons de nous associer, détermine notre avenir et notre bonheur. La liberté de conscience est donc de première importance dans la construction d'une société. Parce que la véritable liberté de conscience peut seulement exister qu'au travers de la neutralité des États et des services publics en matière de questions philosophiques, religieuses ou anti-religieuses d'ailleurs. Nous demandons la complète séparation de l'État et des Églises dans tous les pays, à toutes les époques, dont aucun gouvernement n'a le droit d'imposer à ses citoyens la croyance religieuse ou d'ailleurs l'incroyance religieuse. Nous agissons pour la laïcité et donc la neutralité des gouvernements qui doivent laisser chaque individu libre de choisir et d'exprimer ses propres croyances sans aucune contrainte sociale, policière ou gouvernementale.
Merci Henri. Donc je crois que nous pouvons passer comme illustration musicale Imagine de John Lennon.
Voilà. C'est une chanson que j'ai choisie pour illustrer le propos parce que je crois qu'elle colle tout à fait à ce qu'est l'idéal du libre penseur, qui est la liberté de conscience pour tous.
maintenant, on peut vous annoncer que vous pourrez rencontrer la Libre Pensée dans ces stands au cours des journées des associations qu'organisent beaucoup de mairies. Hein, donc, nous aurons des stands à Port-de-Bouc samedi qui vient, là, le 6 septembre. Vitrolles, là aussi, samedi 6. Marseille, dimanche, c'est Vivacité, dimanche 7. Hein. Et aussi, à Aix-en-Provence, c'est le dimanche 14. Et Arles, le dimanche 21 de ce mois. Je voudrais aussi vous présenter le numéro de La Raison du juillet-août, où vous avez un dossier sur la création de forces ouvrières, mais il y a aussi après 5 pages sur la question de la guerre, contre la guerre, au travers de la critique de la présentation de divers livres. Vous avez celui écrit par Gabriel Péri. Gabriel Péri, tout le monde ne le connaît pas, il est un peu oublié maintenant, je trouve, un peu trop, parce qu'il était extrêmement intéressant. C'était un homme politique communiste et journaliste qui a été fusillé par les nazis le 15 décembre 1941. Alors, il nous parle de la Palestine. Et déjà, il écrit qu'il s'agit d'apprécier correctement le mouvement palestinien. Déjà, en 1929, il y a eu une révolte des Arabes. Cette révolte était-elle justifiée, écrit-il. Nous croyons qu'elle est parfaitement justifiée. Et il continue... Nous ajoutons qu'à notre avis, on se trompe lourdement en l'assimilant à un mouvement antisémitique. Non, il écrit antisémitique. Pour lui, c'est profondément odieux. Il dit que c'est contre une forme d'exploitation imaginée et mise en train à l'époque par l'impérialisme britannique. Et dans le paragraphe d'ailleurs qu'il y a sur la raison, il nous dit « Sous prétexte de foyer national juif, s'est organisée en Palestine une véritable spoliation des Arabes. Je vous rappelle que nous sommes avant la Seconde Guerre mondiale. » Autre livre, qui est un livre de Pierre Sommermeyer, Israël-Palestine, 2003-2024, Chronique libertaire. Hein, je pense que là aussi, vous trouverez un certain nombre d'éléments intéressants. Les sionistes croient sans doute qu'ils ont gagné à Gaza. Ils ne se rendent pas compte que leur riposte, après le 7 octobre 2023 et les massacres de masse qu'ils ont perpétrés, ont commencé inéluctablement le compte à rebours de la fin de l'État d'Israël. Puis, toujours de Pierre Sommermeyer, Guerre à la guerre. Dans La Raison, un article de Georges Spi. Avec Erasme et Rabelais, nous disons non à la guerre. Donc, beaucoup de choses passionnantes que vous pourrez trouver dans ce numéro de La Raison. Et maintenant, nous pouvons dire merci à Claudette, Henri, Michel. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, www.lp-13.org. Et merci encore à Radio Galère et à Daniel d'Article 25. Au revoir et au mois prochain, le mercredi 1er octobre, de 13h30 à 14h30, comme habituellement.